Bonjour et bienvenue chers auditeurs et auditrices, nous sommes sur Bac FM 106.1, la radio lycéenne. Je suis Fleur et je suis en compagnie de Monsieur Denuit, professeur de philosophie au lycée Raoul Follereau. Alors, aujourd'hui, nous sommes là pour discuter philosophiquement sur le désir, pour le printemps des poètes.
Bonjour Fleur.
Bonjour.
Enchantée de pouvoir discuter sur de ce sujet-là, de ce thème-là avec vous.
C'est un grand plaisir d'être ici et de pouvoir parler du désir.
Alors ça me semblait, oui, intéressant de traiter philosophiquement ce thème qui est abordé énormément par les poètes, surtout sous la forme du désir amoureux, de la passion amoureuse. Alors ça signifie pas du tout que le désir se réduit à la passion amoureuse, c'en est simplement, on va dire, une modalité, même si c'est une modalité importante. Alors ce sera peut-être l'occasion de lire quelques poèmes qui ont été sélectionnés pour ce printemps des poètes. La première chose que j'aimerais faire, une précision philosophique, et puis on verra après discuter un petit peu sans généraliser, puisque les poètes disent des choses très diverses sur le désir comme les philosophes, mais les philosophes essayent plutôt d'expliquer. Il essaye plutôt aussi de voir de quelle manière le désir, qui est quelque chose qu'on aime, on désire, désirer, mais en même temps, c'est quelque chose qui peut nous mener plus bas que terre, puisque oui, ça nous rend fou, puisqu'on en perd la tête. Et donc, de quelle manière le philosophe peut réussir à dompter le désir pour vivre heureux, pour aller vers la sagesse. Une petite précision, éventuellement une distinction qu'on pourrait faire au préalable, c'est de distinguer le désir du besoin et de l'envie. On a souvent tendance à mélanger tout ça. Disons que le besoin, ça renvoie à des choses qui sont nécessaires, dont on ne peut pas se passer, à des choses qui sont vitales. Et donc, c'est des choses qu'on partage avec les animaux, avec les autres êtres vivants. L'envie, au contraire, se caractérise par le fait qu'il relève souvent de l'imitation et d'un désir de possession, c'est-à-dire que j'envie. Et l'envie est un péché capital, ce que je ne possède pas, ce que l'autre possède. Et je suis dans un processus un peu mimétique, d'imitation, et souvent l'envie est réductrice, c'est-à-dire c'est simplement l'envie d'accaparer quelque chose pour que l'autre ne l'ait plus.
Ce que disait René Girard.
Oui, tout à fait.
C'est ça exactement, un désir mimétique, donc de l'imitation, de vouloir reproduire ce que l'autre est, enfin ce désir-là. Et il disait que c'était une forme triangulaire, c'est ça ?
Oui, alors le désir mimétique, un désir triangulaire, c'est effectivement, il y a le sujet qui désire, l'objet qui est désiré, alors ça peut être une personne aussi bien, et puis il y a un médiateur qui s'intercale entre le sujet désirant et l'objet qui désire. Et au fond, ce que tout homme désire quand il désire, mais du coup, là c'est plutôt de l'envie, encore une fois, c'est au fond la reconnaissance.
Oui.
Pour prendre une formule un peu compliquée, il faudrait la dire lentement et la découper, le désir est désir du désir d'autrui. Je désire une personne qui possède cet objet-là, et du coup, elle est l'objet de mon désir. J'aimerais être aussi à cette place, c'est-à-dire être moi aussi l'objet du désir. Et pour cela, m'accaparer certains objets qui vont fonctionner comme des signes et me rendre désirable. C'est une logique, par contre, ça qui peut mener à de la violence. C'est-à-dire qu'il va y avoir une lutte pour la reconnaissance, une lutte pour l'appropriation de certains objets. Ce que montre très bien René Girard, c'est avant tout un critique littéraire qui a étudié des grands écrivains du 19e siècle, notamment Stendhal, et il le montre au niveau de la jalousie, de l'envie. La jalousie, l'envie, c'est le désir de posséder ce qu'on n'a pas. La jalousie, c'est la peur de perdre ce qu'on a. Et il montre bien comment fonctionne l'envie.
Nous, en français, nous étudions Le Rouge et le Noir de Stendhal.
Ouais.
Et justement, il y a cette jalousie dans Mathilde. Mathilde de la Mole, qui est très jalouse de l'amour que Julien a pour Madame de Rênal et qui en devient un petit peu folle et qui, à la fin du livre, ne se réjouit pas et ça la détruit de voir que, en fait, Julien porte plus d'importance pour Madame de Rênal.
Oui, oui, oui. Et il en joue.
Oui.
C'est-à-dire à partir du moment où il s'aperçoit, alors il y a, ça fait quelque temps que j'ai pas lu Le Rouge et le Noir, ou relu Le Rouge et le Noir, il y a Mathilde de la Mole, il y a Madame de Rênal, et il y a aussi la maréchale de Fervaques, si je ne dis pas de bêtises. Et donc lorsqu'il sent que Mathilde de la Mole l'aime moins, ou que son amour faiblit, du coup, il va se faire désirer par la maréchale de Fervaques, montrer que la maréchale de Fervaques le désire pour donner envie à Mathilde de la Mole d'imiter ce que fait la maréchale de Fervaques et donc de retourner le désirer.
Oui, forcément, puisque elle ne va plus se sentir, comme vous disiez, la reconnaissance, elle ne va plus se sentir reconnue, donc elle va imiter ce que fait la maréchale pour penser que Julien va s'intéresser à elle puisqu'il oui. recopie ce que fait la même chose.
C'est pas ce que je vous invite à faire, mais c'est au fond ce qu'on fait. Si vous êtes amoureux d'une personne qui vous délaisse, vous allez du coup vous rapprocher d'une personne qui est avec qui cette, la personne que vous aimez est en compétition, en rivalité, pour lui donner envie du coup de vous reprendre, de retourner vers vous. Là, on aurait une logique des passions que Stendhal met très bien à jour. Mais c'est, comme on le constate, pas très beau. Raison pour laquelle l'envie est un péché capital, et puis quand on est envieux, on a envie de faire du mal à l'autre, de calomnier, de voler, oui. voire de supprimer l'autre. Ce serait intéressant du coup de tenir le désir à part du besoin et de l'envie, de voir aussi que c'est quelque chose qui nous rend spécifiquement humains. Le désir, ça ne va pas sans l'imagination, ça va pas sans la représentation, ça va pas sans un certain rapport au temps, une capacité à idéaliser, à absolutiser certaines choses, et c'est alors sans vouloir tout prix rechercher le propre de l'homme, mais ça caractérise, ça singularise l'homme, en tout cas par rapport à d'autres espèces vivantes.
Et je pense que le besoin, c'est quelque chose qu'on a besoin maintenant dans l'instant présent, alors que le désir, c'est plus différent, puisque le désir, on le désire tous les jours, et comme le dit très bien Hélène Picard dans le poème Hymne au bien-aimé, elle dit « Et dans le fleuve beau, je te verrai ton destin », pour parler justement d'un désir qui passe et qui est long, et voilà, qui est long, alors que le besoin, je pense que c'est plus quelque chose qu'on a besoin maintenant et qui peut peut-être s'effacer ou peut-être... qui ne dure pas éternellement.
Oui, le besoin, au fond, passe dans la consommation de l'objet, dans sa suppression, dans la suppression de l'objet. Effectivement, le désir est beaucoup plus enraciné et au fond, veut quelque chose qui ne peut pas être simplement possédé. Je dirais que le désir, c'est plus qu'un désir d'avoir, ou l'envie, plus qu'un désir d'avoir, c'est d'abord un désir d'être. C'est le désir qu'il se passe quelque chose, qu'il advienne quelque chose, et quelque chose qui dure. Et c'est sans cela que le désir aussi nous tire autant de manière positive, mais susceptible de nous faire du mal et de nous détruire.
Oui.
C'est qu'on veut quelque chose d'impossible. On veut que ces moments intenses durent et ne passent jamais.
Ça a des bons côtés et des mauvais. L'impossible permet aussi de réfléchir au possible. Comment on va arriver à ce que l'impossible devienne possible. Mais à la fois, c'est mauvais parce que l'impossible est impossible. On va essayer et on peut faire des choses qui ne sont pas forcément bien.
Qu'est-ce qui nous garantit que l'impossible est impossible ? Il faut essayer.
Oui,
il faut essayer. On a toujours l'espoir que ça réussisse. Si on s'arrête sur l'étymologie du mot désir, qui est intéressante, ça vient du latin desiderium, qui signifie le suffixe privatif de, qui signifie l'absence de ou la privation de, et siderium, ça renvoie
l'étoile.
À l'étoile, c'est l'absence de l'étoile ou la privation de l'étoile, donc cette chose qui brille au loin, qui est d'autant plus désirable qu'elle brille et qu'elle est au loin, qu'elle est inatteignable, et donc l'homme veut escalader le ciel, il veut décrocher la lune, et vous parliez tout à l'heure de l'impossible,
oui.
C'est pourtant ça qu'on désire, et l'étymologie renvoie à quelque chose de complètement fou, d'escalader le ciel, de prendre la place des dieux, de se faire créateur, c'est toutes ces choses-là.
Et l'étoile peut être vue aussi comme le bonheur. Quelque chose, un désir vu, enfin du coup siderium qui veut dire l'étoile, qui brille, qui est guide, qui oriente, qui est là au-dessus de nous. Peut-être que le désir a aussi sa forme, de guide, d'orientation, et qui est là pour nous garder en vie. Le fait de désirer tout le temps peut aussi nous maintenir et nous faire réfléchir et nous donner cette passion dans la vie.
Bien sûr, c'est le moteur de l'existence. Il y a Hegel qui dit « Rien de grand dans l'histoire, rien de grand ne se fait sans passion ». On a tous expérimenté ça. Lorsqu'on désire quelque chose, tout d'un coup, on devient inventif, on devient ingénieux, on trouve des astuces. Au contraire, quand on n'a pas envie, ou même un élève justement qui est devant son devoir de mathématiques, puisqu'on s'adresse à des lycéens, et qui n'a pas l'envie, ou alors, je cible pas cette discipline en particulier, ou n'importe quelle autre, et qui n'a pas l'envie, qui n'a pas le désir, précisément, il va pas réfléchir, il va pas réussir à trouver la solution. Donc effectivement, le désir est moteur. Néanmoins, si on s'arrête sur une conception du désir qui est très importante et qui est liée à l'amour, une manière de concevoir l'amour, c'est-à-dire la conception que Platon se fait du désir, elle est avant tout articulée au manque. C'est-à-dire que le désir serait l'effet ou le produit d'un manque, et ce serait pas simplement le manque d'un objet qu'on pourrait acquérir, comme dans l'envie ou comme dans le besoin, mais ce serait un manque d'être. C'est-à-dire que
d'âme sœur.
Ouais.
Et donc ça revient au mythe de l'androgyne.
Alors effectivement, cette conception du désir comme manque, on la trouve développée dans un dialogue de Platon qui s'appelle Le Banquet. Platon, comme les auditeurs le savent sans doute, n'a rien écrit. C'est toujours, enfin, pardon, Platon a écrit. Par contre, il ne se met jamais en scène dans ses dialogues. C'est toujours Platon, son maître, qui le met en scène. Et Platon et Socrate, dans ce dialogue-là, arrive à un banquet. Il est invité par Agathon, qui vient de remporter un concours de tragédie. Puis il décide, pour occuper la soirée, parce qu'ils ont déjà beaucoup bu la veille, donc ils vont essayer d'être un petit peu calmes cette fois-ci, de faire l'éloge, tour à tour, du dieu Eros, c'est-à-dire de la divinité de l'amour, Cupidon en latin. Et il y a Aristophane qui prononce un discours dans lequel il raconte effectivement le mythe de l'androgyne pour expliquer, au fond, la passion amoureuse. Et il nous dit qu'à l'origine, donc un mythe qui raconte l'origine de ce désir, il y avait trois espèces d'hommes qui sont formés de l'agrégation, de la fusion de deux hommes, de deux femmes et d'un homme et d'une femme. Et donc il y a ces androgynes. Si on se limite ici à l'homme et la femme qui sont fusionnés en un seul, ces êtres étaient, donc ils avaient quatre bras, quatre jambes, ils étaient extrêmement forts, ils voulaient escalader le ciel. Et pour les calmer de leur insolence, Zeus décide, comme des sols, de les couper en deux, de les séparer. Et donc on explique comme ça la passion amoureuse, la recherche effrénée et perdue de l'autre par cette idée qu'on a été séparé de son âme sœur, de la personne avec qui on ne faisait plus qu'un. On veut retrouver cette unité perdue, reformer un absolu, cesser d'être une simple partie.
Comme quoi le désir de trouver l'âme sœur parfois amène, comme Zeus a coupé l'homme et la femme, et qu'après, ils sont malheureux. Et parfois, le désir amène à un côté négatif et nous rend tristes, nous rend malheureux. Donc, il ne faut pas non plus trop désirer et aller vers, comme on disait, l'impossible. Mmh. Et comme on parle du printemps des poètes, il y a un poème de Louis Scollet, de 1836, qui parle justement de la passion, d'un désir fort. Donc, je vais vous en faire la lecture. Car mourir sans goûter une joie ineffable, sans que la vérité réalise la fable, de mes rêves d'amour, de mes vœux superflus. Non, je ne le puis pas. Non, mon cœur s'y refuse, pourtant, ne croyez pas, hélas, que je m'abuse. Je désire toujours, mais je n'espère plus.
Oui. Très beau poème, avec aussi, il y a une forme de sagesse, mais une sagesse un peu contradictoire si on essaye de faire un commentaire rapide, puisqu'elle désire malgré tout continuer à éprouver cette joie ineffable que la vérité réalise, que la fable se réalise. Donc elle ne renonce pas au désir absolu,
mais elle
par contre
plus.
Elle ne l'espère, voilà, elle n'espère plus.
Mais
est-ce que c'est possible de désirer sans continuer d'espérer? Et il n'y a pas d'espoir sans crainte, dirait un philosophe dont on va peut-être parler plus tard, qui s'appelle Spinoza. Et donc, il y a ce plaisir pris au désir, mais qui est entremêlé de tristesse liée à cette crainte que ça ne se réalise pas.
Oui, donc un désir qui amène, du coup, dans un espoir qui descend, quoi, qui diminue, et comme elle le dit, je n'espère plus,
oui.
Mais elle désire encore.
Mais il y a néanmoins une forme de sagesse dans le fait de ne plus espérer, de renoncer à quelque chose. Ça pourrait rejoindre des formes de philosophie classique ou de sagesse antique, comme le stoïcisme. D'une certaine manière, le stoïcisme, pour le résumer en une phrase, nous dit qu'il faut désirer les choses qui dépendent de nous, et en tout cas placer aucun espoir, à proprement parler, dans les choses qui ne dépendraient pas de nous, qui risquent de nous filer entre les doigts et sur laquelle on n'a aucune maîtrise.
Mais alors, est-ce que c'est ce que disait un peu Gilles Deleuze, qui expliquait que le désir, c'était indépendamment d'une situation, c'est ça ?
Alors, c'est plutôt l'inverse.
Ah.
Au contraire, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on a tendance à concevoir le désir de manière abstraite. Alors là, on quitte un peu la poésie pour faire de la philosophie. Abstraire, au sens étymologique, ça veut dire tirer à part.
Oui.
À part, et trahirer, qui veut dire traire, tirer. C'est-à-dire qu'on isole le désir de la réalité dans laquelle ça se passe, dans le complexe dans lequel à chaque fois le désir émerge. Et il nous dit au contraire qu'on désire jamais une personne ou un objet indépendamment de tout un contexte, d'un ensemble d'objets. C'est-à-dire, pour une femme va désirer une robe, pour reprendre un de ces exemples, avec une paire de chaussures, avec une coiffure,
oui,
avec une saison, avec une relation amicale ou amoureuse.
Là, quand on va
avec
se marier,
un milieu social.
On ne choisit pas qu'une robe, on choisit le maquillage, la coupe des cheveux, tout.
Et c'est un ensemble. Et le désir, c'est pas simplement donc quelque chose qui passe de l'objet, du sujet, pardon, à l'objet, ou de l'objet au sujet, c'est quelque chose qui circule entre tous ces éléments. Et si finalement un élément n'est pas à sa place, le désir ne passe pas. Pour faire une analogie, si vous voulez, c'est un peu comme dans une œuvre d'art, où le peintre ou le créateur dispose des couleurs, dispose des formes, et puis tout d'un coup, quelque chose se passe. La couleur monte, et le désir, c'est un peu la même chose. Rassembler les bons objets pour que le désir circule.
Et tout ça se fait quand même dans le temps, ça ne se fait pas direct, c'est toute une réflexion de ses choix et d'un désir qui se réfléchit, etc., dans le temps.
Oui. Alors, comme le temps passe, le désir est sans cesse à... Si on reste avec Deleuze, le désir comme un ensemble, comme un agencement, il est sans cesse à réagencer. Il faut sans cesse réadapter son désir ou réadapter les éléments pour que le désir passe. Alors après, il y aurait beaucoup de choses à dire sur le temps et le désir, puisque sans doute que les poètes écrivent pour garder quelque chose, pour fixer le temps, pour éviter que le temps passe, pour garder la beauté. Les choses vont se dégrader, les choses vont passer, les choses ne vont plus être. Et donc c'est pour conserver une trace que le poète écrit et que globalement les artistes, il me semble, travaillent. Et ça nous permet de revenir à Platon. Vous voyez tout à l'heure le désir comme manque. Si le manque se produit, si c'est parce que le temps passe, c'est parce que les choses disparaissent, le temps intercale une distance et donc le désir s'articule souvent à quelque chose comme de la nostalgie.
Oui.
C'est le désir de revenir à un temps passé, le désir de revenir à une situation qui a été perdue.
Mais alors le désir peut être vu du coup par rapport au poète comme un antidouleur, le désir de mettre une trace sur ses écrits, sur un souvenir ou sur une situation, donc... Le désir d'écrire, c'est un peu supprimer le manque et c'est un peu, ça peut être vu comme un antidouleur.
Le fait, vous voulez dire d'écrire un poème comme thérapie ou comme soin.
Oui,
on se soigne de son désir, de la douleur produite par le désir en produisant une œuvre qui va en conserver la trace et la beauté.
Oui, peut-être que ça permet le désir de s'exprimer par l'art, etc. Je pense que c'est un antidouleur et cela permet aux poètes, aux artistes. De s'exprimer dans des choses qu'ils aiment et qui est plus calme et, comme vous dites, qui peut être vu comme une thérapie.
Oui.
Donc, chers auditeurs et auditrices, nous devons marquer une pause avec une belle chanson d'amour, La Javanaise de Serge Gainsbourg. On revient très vite.
J'avoue, j'en ai bavé, pas vous, mon amour. Avant d'avoir eu vent de vous, mon amour, ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. À votre avis, qu'avons-nous vu? De l'amour, de vous à moi, vous m'avez eu, mon amour, ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. Hélas, avril en vain le vous à l'amour. J'avais envie de voir en vous cet amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. La vie ne vaut d'être vécue sans amour. Mais c'est vous qui l'avez voulu, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise.
Nous revoilà sur Bac FM 106.1 avec Fleur et le professeur de philosophie Monsieur Denuy sur une discussion sur le désir pour le printemps des poètes.
Oui, alors vous parliez juste avant de l'importance pour le poète ou pour l'artiste en général de faire œuvre pour conserver quelque chose. Une œuvre, à la différence des autres objets utilitaires, justement se conserve, traverse le temps, ça ne disparaît pas. Et il y a cette envie de s'immortaliser par la production, de s'éterniser par la production d'une œuvre d'art.
Donc le désir revient toujours avec le temps, en fait.
C'est très lié au oui. temps, oui. Alors une petite précision, deux choses intéressantes, il me semble, à dire là-dessus, voire trois. D'une part, les poètes se soulagent, font du bien, sans doute, sont animés par le désir de créer, de se libérer aussi de quelque chose en écrivant le poème, mais aussi permettent au lecteur de fabriquer son propre désir. C'est-à-dire que, sans doute, que la manière dont on tombe amoureux, nous, lecteurs, voire aussi auteurs de poésie, n'est pas indépendant de tous les poèmes qu'on a lus. Notre imagination, nos désirs, nos fantasmes se développent à la lecture de poèmes et ça crée, ça fabrique un désir. Et ça me semble extrêmement important, cette production, cette création de désir, même si c'est susceptible de nous faire souffrir, puisque ça peut s'alimenter d'illusions, de choses qui ne peuvent pas se réaliser. On a distingué en début d'émission la différence entre le besoin, l'envie et le désir. On pourrait augmenter encore les distinctions en faisant une distinction entre le désir et la pulsion. Oui. La pulsion, c'est tout d'un coup j'ai un besoin ou il y a quelque chose qui me passe par la tête et paf, j'ai envie immédiatement de le satisfaire. Mais là, justement, on ne permet pas à la pulsion de devenir un désir. Pour que la pulsion devienne un désir, il faut intercaler un temps
oui.
entre la pulsion et sa satisfaction. Et c'est dans ce temps, donc le temps ici revient, que le désir se forme. Parce que des représentations émergent, parce que l'imagination travaille, parce qu'on construit quelque chose, pour revenir aussi à ce que disait Deleuze. Donc le temps, là encore une fois, est très important.
Et la pulsion n'est pas éternelle, alors que le désir, lui, est éternel.
Oui, effectivement, on construit quelque chose qui résiste au temps, qui n'est pas simplement passager.
Alors, pour revenir à ce désir, cette passion amoureuse, etc., nous avons une élève du lycée Raoul Follereau, Camille Delmotte, en première, qui nous a écrit un poème pour le Printemps des Poètes sur le désir, qui se nomme « Amour solitaire ». Je suis restée aussi longtemps que j'ai pu, prisonnière de cet amour défendu, qui m'a rendue vulnérable à tes yeux, mais dont je ne pourrais pas leur dire adieu. Je t'ai donné mon cœur dès le premier jour. Ce sera toi, seulement toi pour toujours. Et je te le dis, même si je souffre, je t'aimerai jusqu'à mon dernier souffle. Donc très beau poème qui représente très très bien l'amour, je trouve, et le désir d'aimer quelqu'un, la passion, comme le fait aussi très bien le poème de Louise Collet.
Oui, oui, poème qui est dans sa forme, on va dire, assez classique et dans les idées exprimées.
C'est une manière d'exprimer son amour, d'exprimer son désir, comme on en a parlé tout à l'heure, par l'écrit.
Tout en l'exprimant, de le vivre.
Oui, voilà.
On est des êtres, les êtres humains sont des êtres de symboles. Et l'amour se vit aussi justement par la poésie, se vit par l'imagination, se vit par les œuvres d'art. Donc c'est une manière aussi de faire exister le sentiment amoureux que de l'écrire.
Je pense que pour désirer, il faut imaginer avant tout.
Alors, ça permet, ce que vous dites, de faire une distinction, de faire apparaître en tout cas un problème philosophique intéressant. Y a Stendhal, pour revenir aussi à cet auteur dont on a parlé tout à l'heure lorsqu'on s'intéressait au désir mimétique, c'est un auteur que René Girard, qui a travaillé sur le désir triangulaire ou mimétique, a étudié, a écrit un livre qui s'appelle « De l'amour », où il analyse la passion amoureuse et il parle de ce qu'on appelle la cristallisation, c'est-à-dire le fait pour la personne qui est prise de passion de projeter ses désirs, ses fantasmes, ses envies sur la personne aimée. Et donc lui conférer tout un tas de qualités, et il prend l'exemple d'un bout de bois disgracieux, sans aucune qualité, qu'on viendrait plonger dans les mines de sel de Salzbourg, et qui se retrouverait comme ça saisi par les cristaux et deviendrait flamboyant, radieux, renvoyant la lumière, scintillant. Alors que ça ne reste qu'un simple morceau de bois.
Et
donc, c'est notre désir qui, on pourrait voir les choses comme ça, vient projeter, conférer de la beauté à une chose qui peut-être n'en aurait pas, raison pour laquelle, alors c'est le côté peut-être triste et désillusionné de l'amour, lorsque l'amour passe, tout d'un coup, lorsque la lucidité revient, si tant est que c'est de la lucidité, si tant est qu'on soit plus lucide quand on n'est pas amoureux que quand on est amoureux,
oui.
Tout d'un coup, on se demande comment on a pu être amoureux d'une personne dont on ne perçoit plus aucune qualité. Donc le problème philosophique qui est derrière, c'est au fond, est-ce que c'est parce qu'une chose ou parce qu'une personne est objectivement intéressante, belle, qu'on l'aime, ou est-ce que c'est pas plutôt parce qu'on l'aime, et peut-être des fois pour de mauvaises raisons, qu'on lui trouve telle ou telle qualité?
Cela me fait penser à un poète, Francis Ponge, qui lui met de la beauté dans des choses qui sont inimportantes. Par exemple, il fait des poèmes sur la boue, la cigarette, la viande, dans le parti pris des choses. Et c'est là où c'est le désir de rendre beau quelque chose qui est à côté de nous, mais...
De nous faire saisir, percevoir la beauté de,
oui.
de choses qui sembleraient disgracieuses au préalable.
Oui.
Et c'est effectivement le tour de passe-passe, le tour de force de l'art, c'est-à-dire de transformer de la boue, éventuellement, en or. Bah, c'est la pierre philosophale.
L'autre de la boue, il fait une belle éloge de la boue.
Une belle représentation d'une chose moche, laide, voire dégoûtante.
Oui.
Et ça fait penser, c'est très célèbre aussi à ce poème de Baudelaire, à une charogne, description d'un corps en train de se décomposer sous le soleil.
Et c'est fou parce qu'il met un cadre, c'est une rencontre amoureuse, je trouve, dans ce poème. On a l'impression d'être là à avoir une rencontre amoureuse alors que c'est quand même avec une charogne. Et c'est ça qui est assez contradictoire et assez bizarre. On se demande comment on peut trouver de la beauté dans un corps qui n'est plus habité.
Mmh. Alors là, on quitte un petit peu la question du désir à proprement parler pour s'intéresser à ce que réussit à faire l'art, c'est-à-dire à nous mettre dans un rapport aux choses qui n'est pas un rapport utilitaire ou qui est un rapport justement de représentation ou un rapport désintéressé. Lorsque vous rencontrez de la boue sur votre parcours ou dans la vie quotidienne, c'est vous allez saisir vos chaussures, vous allez vous empêtrer, vous embourber dedans, c'est très désagréable. Là, au contraire, vous prêtez attention à des qualités esthétiques de la boue et ça peut représenter, dans ce cas-là, un intérêt. C'est intéressant de parler de la beauté. On parlait tout à l'heure du banquet de Platon. C'est un texte qui parle aussi de la beauté et le désir, ça semblait une évidence, un truisme de le dire, est désir de la beauté. Apparemment, on désire les choses qui sont belles.
Oui.
Et ça permet à Platon de développer ce paradoxe. Lorsque, autour de ce banquet, à l'occasion de ce banquet, tous ceux qui sont présents, tous les convives font l'éloge de la beauté, alors ils disent que la beauté, évidemment, ou Eros, pardon, il est sublime, il n'y a aucune divinité qui n'est plus intéressante, qui n'est plus belle, etc., etc. En réalité, fait remarquer Socrate, est-ce qu'on désire ce qu'on a ou ce qu'on n'a pas? C'est une question que je vous pose, Fleur. Est-ce qu'on désire ce qu'on a ou ce qu'on n'a pas?
Je pense qu'on désire ce qu'on n'a pas.
Ce qu'on n'a pas. Et donc, si le désir est désir des choses qui sont belles, est-ce que par conséquent, le désir est beau?
Je pense, parce qu'on ne peut pas désirer quelque chose qui n'est pas beau. Mais après, il est beau pour nous, mais est-ce qu'il est beau pour les autres?
Mais vous confondez du coup là le désir avec l'objet de son désir. Si justement... Vous êtes d'accord avec ce que vous venez d'accorder au début, c'est-à-dire qu'on désire ce qu'on n'a pas. Si le désir désire la beauté, ça signifie qu'il n'est pas beau, qu'il n'a pas la beauté. Ça signifie pas pour autant que le désir est moche.
Oui.
On peut ne pas être beau sans être tout de suite laid.
Oui.
Mais ça signifie effectivement que le désir, si on suit ce que dit ici Socrate ou Platon, n'est pas beau. C'est pour ça qu'il est désir, précisément, de la
beauté. Et c'est nous qui le rendons beau, c'est nous en le désirant qui le rendons beau.
Ça c'est le problème qu'on n'a toujours pas tranché tout à l'heure. Est-ce que c'est parce que la chose est belle qu'on la désire, ou est-ce qu'au contraire parce qu'on la désire qu'on la trouve belle?
Moi je pense que oui, c'est parce qu'on la désire qu'on la trouve belle.
Donc si vous pensez que c'est parce qu'on la désire qu'on la trouve belle, c'est que vous êtes spinoziste. Puisque c'est une thèse, effectivement, que met en avant Spinoza. Alors pour essayer de voir ce qu'un philosophe, toujours sur le désir et sur la poésie, alors là, du côté explicatif... On cesse de se raconter des histoires et d'être pris dans la passion pour être plus froid et objectif et essayer de comprendre. Platon nous dit, au fond, on désire une chose parce qu'elle nous manque. Ça signifie que tant que la chose n'est pas là, tant que la chose nous manque, on la désire.
Oui.
Et donc, ce que veut le désir, c'est supprimer ce manque. Bon. Et donc, si vous êtes amoureux d'une personne, si vous désirez une personne, c'est parce que, précisément, vous n'êtes pas avec cette personne.
Oui.
Bon, jusque-là, vous suivez le raisonnement.
Oui.
Vous allez faire tout votre possible, et on a vu que le désir nous rend ingénieux, vous allez faire tout votre possible pour vivre avec cette personne, mais précisément, une fois que vous êtes avec cette personne, elle ne vous manque plus.
Bah oui, parce qu'elle
est là. Comme elle ne vous manque plus, du coup, il n'y a plus de désir, puisque le désir vient du manque.
Mais alors peut-être que le désir prend d'autres formes, une autre forme de désir.
Ce qui permet d'expliquer et de ne pas tomber dans quelque chose d'une situation complètement désespérante, si effectivement, quand on possède l'objet de son désir, on ne le désire plus. On désire ce qui nous manquait, on désire plus ce qu'on a, ce serait absolument, encore une fois, désolant. Et là, Spinoza, on peut opposer Platon et Spinoza, viendrait effectivement nous faire comprendre les choses de manière plus rassurante. Lorsqu'au fond, on désire quelque chose, nous dit Spinoza, c'est parce que cette personne, lorsqu'on est en sa présence, nous permet d'être davantage nous-mêmes. On disait en début d'émission que le désir, à l'inverse de l'envie, c'est pas l'envie de posséder quelque chose, c'est au contraire qu'il se passe quelque chose. C'est pas un désir d'avoir, c'est un désir d'être. Et lorsque vous êtes en présence de la personne, tout d'un coup, vous vous sentez plus vivant. Je sais pas, j'ai dit des choses assez bêtes. Vous pouvez développer des capacités, vous pouvez faire des blagues, vous pouvez parler de choses qui vous intéressent. Et donc, la présence de cette personne-là vous rend, vous, plus joyeuse, puisqu'elle vous permet d'être plus actif.
Donc, on revient à dire que le désir est une forme de bonheur.
Dans ce cas-là, oui.
Mais alors, je pense que, comme pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure...
Mais ça se cultive, ça se travaille.
Oui, forcément. Peut-être que quand le désir est là, le désir, enfin le manque est rempli, peut-être c'est peut-être plus un désir, mais justement une envie et un besoin à la place. Puisqu'un désir, comme on a vu tout à l'heure, c'était plus un manque. Alors peut-être que quand la personne est là, ça, on en vient à plus parler de désir, mais à parler d'envie et de besoin.
Peut-être. Si on s'en tient aux définitions qu'on a données en début d'émission, si vous avez du coup envie de la personne, on voit ce que ça veut dire au sens où on emploie ce terme ou cette expression couramment, mais ça voudrait dire que vous avez envie de cette personne parce que précisément vous voulez l'accaparer ou la prendre par rapport à quelqu'un qui serait déjà avec, ou ce serait dans un processus imitatif. Le besoin, ce serait vraiment que vous êtes en dépendance affective.
Oui, donc c'est un peu fort.
Mais les choses ne sont pas incompatibles. Vous pouvez effectivement envier, avoir besoin et désirer simultanément une personne.
Mais alors l'envie est parfois un peu négative. Alors comme on a vu avec Mathilde Lamolle qui a envie que, enfin qui, oui, c'est aussi elle désire, mais je pense qu'elle envie aussi dans l'autre sens, qu'elle envie la maréchale, c'est ça?
Oui.
Je pense qu'elle envie, c'est pas super comme sentiment.
Ah, c'est un sentiment, encore une fois, réducteur. Alors que le désir vous stimule, vous pousse, l'envie ne vous fait prêter attention à une chose que pour en priver l'autre. Si on va un petit peu plus loin, justement, avec ce que nous dit Spinoza, au fond, quand on désire quelque chose, c'est parce que cette chose nous fait du bien.
Oui.
Elle nous permet, pour reprendre son vocabulaire, de développer ce qu'on peut faire, nos capacités, en se sent être davantage, vivre davantage. Le problème dans l'existence, c'est que parfois on se fait des idées sur ce qui est susceptible de nous procurer de la joie. Et donc on s'imagine que telle personne, parce qu'une fois par hasard, nous a mis dans la joie, elle est susceptible à d'autres occasions de nous redonner de la joie. Et des fois on s'attache à des objets passionnément, alors même qu'ils nous produisent plutôt de la tristesse, parce qu'on se fait une idée fausse de la personne ou de l'objet. Et là, c'est le début du malheur et d'une spirale du malheur.
En fait, c'est ça, c'est que le désir est... Et je pense une perte de lucidité. Et elle nous envoûte, elle nous pas manipule, mais elle nous envoûte et du coup nous montre plus la réalité, nous montre plus les vraies choses. Et c'est pour ça que souvent, quand on est avec quelqu'un, on ressort de cette relation en étant mal parce qu'on s'est rendu compte que cette relation n'était pas forcément saine ou n'était pas forcément une bonne chose parce que le désir s'est emparé de notre esprit et nos pensées et nous a fait croire que c'était parfait parce que voilà, c'est ce sentiment de désir qui est complètement faux.
Ouais. Et donc il faut substituer pour faire un jeu de mots facile, à la folie, la philo, et se mettre à raisonner, essayer d'avoir des idées, on va dire, lucides sur l'objet de sa passion pour arrêter d'en souffrir. Et on pourrait articuler ce qu'on disait tout à l'heure avec Deleuze et puis ici Spinoza, c'est-à-dire qu'il faut trouver justement les personnes, les bonnes personnes, les bons objets qui vont permettre à ce qu'on est. Et selon Spinoza, nous ne sommes pas tous les mêmes, c'est-à-dire qu'on n'a pas tous les mêmes pouvoirs, les mêmes capacités.
Heureusement.
Et donc ce qui convient à l'un ne va pas convenir nécessairement à l'autre. Donc à chacun, plutôt que d'imiter ce que fait l'autre, je vois que ce que l'autre possède le rend heureux, donc moi je vais faire pareil. Mais ça se trouve, ce qui lui convient ne me conviendrait pas à moi. Donc faut pas imiter les autres.
Il faut plutôt être soi-même et...
Voilà.
Je pense, pour revenir à ça, comme ce que dit Anton Tchekhov, c'est « le bonheur n'existe pas, seul existe le désir d'y parvenir ». Je pense que, justement, il ne faut pas chercher le bonheur chez les autres, mais le chercher chez soi-même et le chercher dans son esprit et ne pas imiter les autres pour se trouver et pour trouver le bonheur.
Oui. Il y a cette idée que, effectivement, le bonheur, si tant est qu'on puisse y parvenir, quand il est là, on n'arrive pas à le saisir. On l'entend qu'une fois qu'il claque la porte, qu'une fois qu'il est parti. Donc on serait confronté à cette impossibilité d'atteindre l'objet du désir. Un point supplémentaire, comme le temps après, je ne sais pas combien de temps on a encore dans l'émission. On pourrait dire, au fond, qu'il faut prendre acte du désir. Le supprimer, ce serait sans doute manquer de sagesse. manquer ce qui nous constitue comme être humain et ce qui nous donne aussi de la force. S'y abandonner totalement, ce serait une autre forme aussi de folie. Donc il faut réussir à trouver les objets qui vont encore une fois satisfaire notre désir et nous procurer de la joie, si on raisonne en termes spinoziste. Pour terminer, j'aimerais prendre un autre philosophe qui a des choses intéressantes à nous dire là-dessus, et qui est Jean-Paul Sartre, et qui permet de revenir sur ce dont on a parlé tout à l'heure avec le temps. Au fond, ce que nous dit Sartre, c'est qu'à la différence d'une chose, l'homme est un être qui est conscient, c'est une banalité de le dire, mais être conscient, c'est le fait justement de jamais adhérer à soi, de jamais être soi comme un micro est un micro, comme une table est une table. C'est-à-dire qu'on a toujours un rapport de soi à soi, et donc on colle jamais à soi, on s'identifie jamais à ce qu'on est. Et donc, au fond, on est toujours pour soi-même un objet de désir. Ce qu'on veut dans le désir, c'est être soi.
Être soi-même, oui.
Réaliser quelque chose de soi. Mais ça, on n'en a jamais terminé. On n'a jamais terminé, parce que justement, on est toujours dans un rapport de soi à soi.
On
colle pas, voilà.
Tout le temps. C'est ce que disent souvent les parents par rapport à l'adolescence, que les adolescents se cherchent tout le temps, sans jamais savoir qui ils sont.
S'ils sont, ouais.
Donc, notre émission est finie. Merci de nous avoir écoutés. Restez sur Bac FM 106.1. C'était Fleur et Monsieur de Nuit. À bientôt. Bonne journée et au revoir.
Au revoir.